Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Le programme alimentaire mondial vole au secours de plus de 30 000 retournés de guerre dans le Massif et au Nord Kivu, ce avec une nouvelle approche. Il s'agit d'établir un lien direct entre les petits producteurs, les commerçants locaux et les communautés bénéficiaires afin de stimuler l'économie locale, explique le PAM. Province de la Tchopo, les justiciables non contents de la manière dont la justice est rendue sont invités à participer à la journée porte ouverte organisée ce vendredi à la cour d'appel de Kisangani. Ici, ils peuvent poser directement leurs problèmes au procureur général près la cour de cassation. Firmin Vondé a lancé cette invitation hier à son arrivée à Kisangani. Et puis, les Nations Unies font face à une crise de liquidité. C'est ce qu'a dit le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. C'était lors de son dernier passage en RDC. Pour en parler, nous recevons le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Bruno Lemarquis. Mais d'abord cette information, plus de 100 personnes ont péri dans un naufrage survenu au confluent des rivières Nsolo et Baringa dans le territoire de Bassankoussou, province de l'Équateur. Ce drame survenu dans la nuit du mercredi 10 septembre 2025 est causé par la surcharge du convoi motorisé dénommé Bokenda. C'est le panel des experts de la société civile Coordination Provinciale de l'Équateur qui livre l'information dans un communiqué parvenu ce vendredi à Radio Okapi. Selon la même source, les victimes sont en majorité des élèves et d'après le communiqué de cette structure de la société civile, 8 personnes ont pu être secourues grâce à l'intervention des riverains. Madame, Messieurs, bonjour. Dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu, plus de 30 000 personnes retournées de guerre, vulnérables, notamment des villages Kibati et Kinigi, reçoivent depuis le début de ce mois de septembre une assistance alimentaire de la part du Programme alimentaire mondial PAM avec une nouvelle approche. Cette nouvelle approche dénommée Chakula Sokoni, entendez, la nourriture au marché, vise à renforcer leur sécurité alimentaire. Ce nouveau projet actuel dans sa phase expérimentale, vise à booster l'économie locale et à accorder un choix d'aliments aux bénéficiaires. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
Cette nouvelle forme d'assistance alimentaire repose sur l'octroi des coupons électroniques à valeur monétaire. Ce coupon permet aux familles bénéficiaires de s'approvisionner directement en vivres auprès des commerçants locaux, préalablement contactés par le Programme alimentaire mondial. Il s'agit des haricots, riz, sel et huile, essentiels dans l'alimentation des ménages. Les prix appliqués sont ceux du marché local. L'idée est de garantir à la fois l'accessibilité et le respect du pouvoir du choix des bénéficiaires, précise le Programme alimentaire mondial. Ce projet pilote a pour objectif d'établir un lien direct entre les petits producteurs, les commerçants locaux et les communautés bénéficiaires afin de stimuler l'économie locale. À noter qu'une dizaine de kiosques des commerçants ont été installés pour exposer leurs produits. Ceci pour répondre aux besoins alimentaires des retournés bénéficiaires. Le projet Chakula Sokoni favorise la dynamisation des circuits économiques locaux et les communautés accèdent aux vivres de manière plus flexible alors que les petits commerçants et producteurs locaux, eux, trouvent des nouvelles opportunités pour écouler leurs produits. Toujours selon les PAM, en cas de réussite, ce programme qui est dans sa phase pilote au Nord Kivu pourrait être dupliqué dans d'autres régions de l'Est affectés par l'insécurité alimentaire.
Du côté de l'Ituri, des milliers de personnes déplacées et retournées bénéficient depuis hier de la gratuité des soins de santé primaires dans certaines localités du territoire de Djougou. C'est notamment dans les villages de Lonio, Igabarrière, Lopa, Nizi et environ. Grâce à l'appui de l'UNICEF aux structures sanitaires locales, cette prise en charge concerne également les cas de malnutrition chez les enfants et les personnes de troisième âge. Martial Kiza pour les détails.
Les bénéficiaires de cette assistance en soins médicaux sont principalement les populations vulnérables touchées récemment par la crise sécuritaire dans les localités de Igabarrière, Lopa et Nizi, en territoire de Djougou. Les bénéficiaires saluent ce geste qui, selon eux, va permettre de sauver beaucoup de vies humaines.
On a fait 2 mois et demi ici. Nous étions en train de souffrir beaucoup par manque de médicaments. Avec cette gratuité des soins, je commence à suivre la CPN. Pour mon cas de maladie, j'ai été transféré à l'hôpital de Mandrou. Merci beaucoup pour votre assistance et que Dieu vous bénisse.
Selon l'organisation PPSP qui exécute ces projets de l'UNICEF, l'objectif est d'améliorer l'accès aux soins décentes de ces vulnérables dans leurs zones de déplacement. Trésor Muyumba est le chargé des communications de PPSP à Ituri.
Toute femme qui va accoucher pendant cette période de 2 mois à partir d'aujourd'hui, ce sera gratuit. Les cas de complications, le malade est directement transféré au niveau de l'hôpital de référence de Mandrou.
Notons que la durée de ces projets est de 2 mois, soit du 11 septembre au 11 novembre 2025. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, les justiciables de Kisangani dans la province de la Tshopo, invités à participer à la journée porte ouverte organisée aujourd'hui à la cour d'appel de Kisangani, il est question pour les justiciables qui ne sont pas contents de la manière dont la justice est rendue de poser directement le problème au procureur général près la cour de cassation. Firmin Vonde l'a annoncé hier au gouverneur intérimaire peu après son arrivée à Kisangani. Firmin Vonde explique dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat de la Tshopo.
Il y a 4-3 jours, j'ai envoyé une équipe de magistrats de mon office pour l'inspection du ressort de la Tshopo, principalement tous les offices des parquets de la ville de Kisangani. Et au terme de leur travail, je suis venu pour tenir une journée porte ouverte. À 9h, ce sera dans la salle d'audience de la cour d'appel, où il sera question pour moi de recevoir toutes les doléances des justiciables dans tous les sens. Toutes leurs préoccupations seront rencontrées par moi, soit pour leurs orientations futures, soit pour des solutions immédiates, ou encore pour des solutions idoines. Et nous avons cette mission de nous rapprocher de tous les offices inférieurs, leur donner l'impulsion, les contrôler, les redresser là où il faut, pour faire en sorte que cette justice que nous voulons distributive, de par le vœu du chef de l'État, magistrat suprême, soit une réalité et soit effective.
Reconstruire le mur de leur école, c'est le plaidoyer lancé par les enseignants de l'école Saint-François-Xavier hier à Kinshasa. Cette école est située non loin de la rivière Kalamu. Ces professionnels de la craie redoutent que lors du retour des pluies, leur école soit à nouveau victime des inondations. En effet, le mur arrière de cet établissement s'était écroulé lors des fortes pluies survenues en juin dernier. C'est un reportage de Sarah Soumbela.
Les traces des dégâts causés par les eaux de pluie à l'école Saint-François-Xavier sont encore visibles à ce jour. Les murs effondrés n'ont pas été reconstruits et l'on peut encore voir de la boue séchée ainsi que des dossiers abîmés par les eaux de cette nuit-là. Quelques travaux de fortune ont été réalisés grâce à l'initiative des élèves soucieux de voir leur école reprendre ses activités dans des conditions acceptables. Ces efforts ont permis une rentrée scolaire 2025-2026, mais beaucoup reste à faire, comme l'explique Madame Espérance Lissoukou, préfète de l'école Saint-François-Xavier.
Vraiment, ma crainte, Madame, est énorme. Bientôt, c'est la reprise des pluies. Et ces murs-là n'est pas réhabilité. Donc nous risquons de revivre la même catastrophe que celle du 14 juin.
Les élèves en dernière année craignent que le retour des pluies ne compromette l'achèvement du calendrier scolaire. Ils appellent le ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté à intervenir pour sauver non seulement leur école, mais aussi l'année scolaire en cours. Cet appel est également lancé aux personnes de bonne volonté susceptibles d'apporter leur aide aux établissements sinistrés.
Dans la province du Maniema, l'exploitation minière bénéficie de l'apport des étudiants nouvellement sortis de l'université. Les géologues de la première promotion travaillent déjà dans différentes sociétés minières de la place. Selon leur témoignage, dans les jours à venir, la province n'aura plus de carence des géologues. On écoute l'ingénieur Mbango Mutingulua au micro de Florence Kizalunga.
Je suis les premiers fruits de l'Institut facultaire de mines et géologie de Maniema. Présentement, je travaille à la société minière Punya Kasese Mining, PKM, dans la province du Maniema, précisément à Punya. À l'Institut facultaire de mines et géologie de Maniema, je peux vous dire, on ne crée pas de chômeurs. Imaginez, depuis qu'on a terminé la première promotion, nous, chacun déjà, est sollicité dans des sites miniers. Il y a des coopératives qui sont là. Mais nous aussi, nous avons des opportunités d'être embauchés dans des sociétés minières. Nous devrons aussi savoir que les Maniema vraiment a des potentiels les ressources minérales. C'est pourquoi, avec cette idée, avec cet avantage qui est toujours dans nous, je ne cesserai jamais de convier aux élèves qui ont obtenu leur diplôme d'État d'embrasser l'Institut facultaire de mines et géologie du Maniema. Parce que nul d'entre nous n'est chômeur. Nous sommes sollicités déjà, nous sommes déjà quelque part et nous sommes en train de travailler. Il y a des carences des géologues. C'est pourquoi, même actuellement, il y a toujours la sollicitude des géologues dans notre province. Je suis très fier et ravi de l'être parce que créer un géologue, c'est arranger la République actuellement pour les ressources minérales.
Retournons au Nord Kivu. Les coordinations de la société civile de Goma, Beni, Masisi et Niragongo ont échangé hier avec Abdourahmane Ganda, le chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni. Au cours de cette rencontre, elles ont appelé la mission onusienne à s'impliquer davantage dans la protection des civils face à la recrudescence des attaques des EDF dans les territoires de Beni et Lubero. Ces structures citoyennes ont également exhorté les parties prenantes au processus de paix de Washington et de Doha à respecter leurs engagements. John Banyene, président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, s'exprime à ce sujet au micro de Martial Papi Mukeba.
Nous avons échangé avec les chefs de bureau pour demander le concours de la MONUSCO dans le cadre de la stabilisation, dans le cadre du maintien de la paix et de la protection des civils. La MONUSCO, aussi longtemps qu'elle est ici chez nous, nous devons profiter de son expertise, de sa présence pour nous aider à ramener la paix. Nous devons profiter de ça. Et nous, comme société civile, nous devons nous mettre au travail pour essayer d'informer et de former la population sur la mission de la MONUSCO dans nos zones respectives. Partant de tous ces dialogues, ces processus en cours, pour nous, notre besoin, c'est la paix. Et nous savons, quand nous aurons la paix, nous aurons besoin de la MONUSCO pour nous aider dans le cadre du maintien de la paix et de la stabilisation. Oui, nous soutenons les deux processus. Vous savez que cette guerre a beaucoup duré. Ils doivent respecter les accords déjà signés. C'est ce que nous voulons. Il y a l'accord de Washington qui tarde aussi d'être mis en application.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Kimvula. Nous sommes au Congo central. Ici, les familles qui ont fui l'activisme des miliciens Mobondo regagnent progressivement leur village. Les cours ont aussi repris dans les différentes écoles, quoique timidement. C'est le constat fait par le commandant de la 12e région militaire, le général-major Ngoy Kilou Bibob, qui y séjourne depuis le 28 août dernier. Information confirmée par l'administrateur du territoire de Kimvula. Détail avec Nana Plurich Mambou.
La traque des miliciens Mobondo se poursuit dans les territoires de Kimvula avec les militaires qui sont déployés dans ces territoires, plus précisément dans les secteurs de Lulalumene. Sur place, le général-major Bob Ngoy Kiloubi a constaté qu'aucune incursion de Mobondo n'est enregistrée depuis plus de 6 mois. À la faveur de la calmie constatée, la population qui a fui l'activisme des miliciens Mobondo retourne aux différents villages progressivement. Bien que timide, les cours ont repris et les activités commerciales se déroulent normalement. Cette information est confirmée par l'administrateur du territoire et d'autres notabilités locales. Signalons que cette visite du responsable de la 12e région militaire à Kimvula, où les miliciens Mobondo ont commis plusieurs atrocités, est la deuxième après celle du juillet 2024. Notons que la dernière incursion des Mobondo à Kimvula remonte au 1er janvier 2025. À cette occasion-là, les bétails et autres biens de valeur de la population avaient été emportés. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis, réconcilier les communautés, apaiser les tensions et rétablir l'autorité de l'État, c'est la mission que mène depuis jeudi une délégation gouvernementale à Uvira dans le sud Kivu. Cette visite intervient après plusieurs journées de troubles marquées par des tensions vives et des opérations ville morte décrétées par la société civile et les forces vives locales. En cause, la nomination controversée d'un nouveau commandant adjoint à la 33e région militaire. D'autres précisions avec vous, Blaise Makassinandes.
Conduite par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, la délégation a pris part au Conseil de sécurité restreint, réunissant les services concernés au niveau national et provincial. Objectif, dresser un état des lieux de la situation sécuritaire dans la province. Les conseils ont ensuite été élargis à la société civile, aux forces vives et aux représentants des Ouazalindo pour permettre un dialogue franc, dissiper les malentendus et favoriser un climat de paix. Le ministère de l'Intérieur souligne que cette démarche vise à restaurer l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourroussi, salue l'initiative et évoque une évolution positive sur terrain. Aux côtés du ministre de l'Intérieur, on retrouve le ministre de l'Industrie, de la Coopération régionale, le ministre délégué à la Défense, chargé des anciens combattants, ainsi que le chef d'état-major général des FRDC et le commissaire général de la police nationale congolaise. La délégation prévoit également de consulter l'ensemble des forces vives locales, y compris les représentants des différentes communautés d'Ouvira, pour consolider les efforts de la pacification.
Actualité internationale.
Positionner l'Afrique comme une puissance industrielle verte, c'est l'ambition du sommet africain sur le climat qui s'est clôturé mercredi à Addis Abeba en Éthiopie. Durant 2 jours, plus de 40 chefs d'État et de gouvernement étaient réunis pour clarifier les priorités du continent en termes de préservation de l'environnement avant les grands rendez-vous internationaux à venir. Ils espèrent ainsi pouvoir peser davantage dans les négociations lors de la COP30 prévue en novembre à Belém dans le nord du Brésil. À l'issue des échanges, la déclaration d'Addis Abeba a été officiellement adoptée.
L'invité.
Il s'agit de Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire. Dans cet entretien accordé à Radio Capi, il revient sur les contraintes budgétaires auxquelles les Nations Unies font face, telles qu'annoncées à la presse de Beni par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, lors de sa récente visite dans cette partie de la province du Nord Kivu. Bruno Lemarquis s'entretient ce sujet avec Marc Marofimbo.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé à Beni et vous venez de discuter avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Evariste Somokakule. Quelle est tenue de votre mission et surtout, qu'est-ce qui a filtré de votre réunion?
Alors, je suis ici en mission à Beni, ensuite nous irons à Bounia. Je suis avec Madame Martinez, qui est la chef de OCHA pour la République démocratique du Congo. On est ici surtout pour se mettre à jour sur la situation humanitaire, parler avec les autorités de la situation humanitaire et nous allons aussi rencontrer les partenaires humanitaires demain ici à Beni. Nous allons aussi visiter quelques projets dans la ville de Beni. La dernière fois que nous sommes venus, c'était en janvier, c'était quelques jours avant la chute de Goma. Il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts, la situation a vraiment changé, comme on le sait. Le type de besoin humanitaire a évolué, les déplacements de population, c'est différent de ce que c'était à l'époque. Dans les zones occupées par M23, les déplacés, il y a eu beaucoup de retours. Maintenant, les gens sont rentrés chez eux, soit de manière volontaire, soit de manière forcée. Donc c'est un type différent d'aide dont il y a besoin. Et puis ici, dans le Grand Nord, à Beni, dans les zones, la situation a également évolué, beaucoup de déplacements. Et puis surtout, cette accélération des massacres dus aux ADF. Et notamment aujourd'hui, on arrive en apprenant qu'il y a eu deux gros massacres hier soir. On est aussi ici pour expliquer tous les changements qui sont en train d'avoir lieu au niveau mondial par rapport au financement humanitaire, pour bien expliquer à tout le monde, à la population, aux personnes déplacées, qu'il y a une crise mondiale de financement qui est due à certaines décisions de certains pays, certains États membres, certains bailleurs de fonds par rapport au financement humanitaire. La RDC est très très touchée. La RDC en 2024 était le premier programme humanitaire pour les États-Unis d'Amérique. C'était le pays qui recevait le plus de financement des États-Unis. Et donc avec les coupures budgétaires qui ont été décidées par ce pays, le pays est le plus touché au monde puisque c'était le plus dépendant au monde aussi de l'aide américaine. Donc ça a un impact vraiment très très important sur les programmes humanitaires, les activités humanitaires, les ONG internationales, les ONG nationales, les Nations Unies. Et donc ça se ressent ici aussi à Beni et dans le Nord Kivu, dans toutes les provinces où il y a des crises humanitaires en RDC, mais ici en particulier. Donc il faut vraiment bien expliquer ça pour que les gens ne pensent pas que c'est de la mauvaise volonté. Nous on fait tout ce qu'on peut pour mettre le radar sur la RDC, où il y a beaucoup beaucoup de besoins. Et donc il faut que les gens comprennent qu'il y a une crise financière au niveau mondial. À Kinshasa, nous avons aussi beaucoup ces discussions pour voir comment beaucoup d'efforts additionnels pourraient être faits pour réduire les besoins humanitaires. Ça peut uniquement de répondre, il faut les réduire. Donc tout le travail qui peut être fait, notamment à Doha, oui, les processus de paix, pour apaiser la situation, pour aller vers une résolution du conflit. C'est ça qui serait la première source de réduction des besoins humanitaires. Voilà, donc on espère tous, bien sûr, que Doha, Washington et les autres processus de paix, la médiation de l'Union africaine vont porter des fruits et que ça va ensuite se décliner au niveau des populations qui pourront rentrer chez elles.
La crise financière mondiale pèse sur les activités des humanitaires. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Comment se présentent les mains des humanitaires actuellement? Elles sont réduites ou remplies pour répondre aux besoins humanitaires?
Au niveau des financements, donc pour revenir à ce sujet, l'an dernier, au même moment, le plan, ce qu'on appelle chaque année, on lance le plan de réponse humanitaire. Chaque année, au mois de février, Donc l'an dernier, à la même époque, on était financé à 50%. C'est la moitié du plan, mais quand même, c'était le montant le plus haut jamais mobilisé pour les RDC, 2024. Cette année, à la même période, on est à 15%.
Est-ce que cette crise n'impacte pas sérieusement le travail des humanitaires en réponse aux besoins de la population ?
Les humanitaires, c'est les pompiers. Voilà, il y a un feu, on va éteindre le feu, mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas de feu. Donc pour qu'il n'y ait pas de feu, il faut d'abord la résolution des conflits. Voilà, il faut arrêter les conflits, que ce soit les conflits locaux. Là, il y a beaucoup de conflits locaux au Congo, communautaires, fonciers, etc. Ou bien les grands conflits, y compris ceux qui ont une dimension internationale. Donc ça, c'est la première chose. Il faut trouver la prévention. Il y a tellement d'investissements à faire en RDC dans la prévention, que ce soit la prévention des conflits ou la prévention des catastrophes. Chaque année, quand il pleut au Congo, on dit ah, « il pleut, ah, il pleut ». Il y a des inondations. On sait qu'il y a des inondations. Il faut prévenir. C'est ça, la réduction des besoins humanitaires. Et puis, faire du plaidoyer. On continue à faire du plaidoyer au niveau mondial. Il y a 3 mois, il y avait la visite de Monsieur Fletcher, qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour l'aide humanitaire. Il est venu au Congo. Il nous aide beaucoup à faire ce plaidoyer au niveau mondial pour les ressources.
Bruno Le Marquis, merci.
Merci beaucoup.
Le coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies répondait aux questions de Marc Marofimbo. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jean Gandou avec Richard Junior Kamunga, à la mise en onde Pierre Diassinois. Merci d'avoir été des nôtres.